Voilà, ben bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis pour la journée du groupe Monde Caraïbes et Transatlantique en mouvement. Donc, nous en sommes, je pense, à trois fois six. On a fait beaucoup de journées quand même. On existe depuis 2014, date qui on a fondé ce groupe à la Jamaïque au cours d'une mission que nous avions faite dans le cadre d'un programme d'enseignement fondé à Sciences Po Bordeaux, et nous avons fondé ce groupe sur la base de ce programme d'enseignement qui était donc pour être adossé à une composante recherche. Nous avons été rejoints par Didier, qui était à l'époque dans le même laboratoire que moi. Nous étions tous les deux au laboratoire Les Afriques dans le Monde. Nous sommes partis tous les deux de ce laboratoire, mais nous sommes restés collègues proche de travail, et le CESMA. Alors, excuse-moi Didier, je ne vais pas arriver à décliner le centre. D'accord. J'ai du mal à retenir. Donc, le CESMA a été un de nos partenaires vraiment constants jusqu'à aujourd'hui encore. Et ce groupe Monde Caraïbes et Transatlantique en mouvement est structuré, c'est important, ça nous a stabilisé par une convention entre la FMSH, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, et le CNRS, l'UMR Passage, donc le laboratoire de recherche auquel j'appartiens désormais depuis que j'ai quitté le LAM, qui était à Sciences Po. Donc tous les deux labos sont à Bordeaux, et moi je plaide pour l'arrêt des frontières entre les labos, parce que c'est sur des sites locaux, c'est stérile et ça nous empêche de naviguer entre chercheurs, entre nos centres de recherche. Donc, j'ai fait l'historique de ce groupe à plusieurs journées, enfin, au cours de toutes les journées d'études. Donc, maintenant, c'est en vidéo. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce programme, vous regardez nos vidéos qui sont sur le site qui est là, qui est abrité par la FMSH. Et je voudrais donc signaler aussi que dans ce groupe, nous avons Mathieu Renaud, qui est malheureusement absent aujourd'hui, qui est philosophe. Donc Didier est historien. Je suis moi-même anthropologue et c'est nous qui formons le noyau de base pour faire vivre ce groupe. Mathieu s'excuse aujourd'hui de ne pas être là. Alors je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, remercier l'AFMSH. Vous avez pu voir le temps de l'accueil, là, comment on s'occupe de nous, et notamment depuis que l'AFMSH a été de nouveau ici, dans le centre. Moi, je trouve que c'est le centre de la vie intellectuelle à Paris. Alors, ça fait peut-être un peu élitiste, mais je trouve que si on avait voulu s'aborder la vie intellectuelle en France, on ne s'y serait pas mieux pris. Il n'y a plus les lieux historiques, mythiques de la vie intellectuelle. Et je suis tellement heureuse que la FMSH soit revenue boulevard Raspail, parce que ce que je disais à un de nos collègues, il y avait une véritable vie intellectuelle avec tout ce qu'elle supposait, d'engagement, etc. Maintenant, c'est dispersé, vraiment le triomphe de la culture managériale avec Campus Condorcet, etc. Donc, moi, je suis heureuse qu'on se retrouve dans ce lieu. Donc, j'en profite pour remercier vraiment l'accueil que l'on a au niveau, vous le voyez, le site, le filmage, les vidéos en ligne qui vont être mises après. Il me faudra votre autorisation. Tout ça qui contribue à une visibilité et puis un confort pour un petit groupe de recherche tel que le nôtre. Voilà, bien sûr, je remercie Jean-Pierre Dauzon, qui est quand même à l'origine, même s'il n'est pas là, qui est à l'origine de l'existence de ce groupe, et Béatrice Collignon, la directrice de l'UMR Passage, et ils se sont battus tous les deux pour cette convention qui nous structure. Et donc, voilà. Et puis, vous remercier à vous d'avoir accepté de participer à cette journée. On fait un petit doublon avec... nous étions rencontrés il n'y a pas très longtemps, beaucoup des participants de la journée. Et puis, remercier le public, qui est encore un petit peu mince, mais on espère que la salle va se remplir très vite. Voilà. Alors, je voudrais juste vous dire, sur ce groupe Monde Caraïbes et Transatlantique en mouvement, qu'il a son activité, donc c'est un des cycles de journée d'études. On en fait à peu près 3-4 par an. plutôt trois, mais on essaye, parfois il y a des séminaires qui se rajoutent, etc. Et notre objectif, très vite dit, c'est d'essayer de construire, et là on s'achemine vers l'écriture d'un livre que peut-être nous allons restreindre au noyau fondateur du groupe, parce qu'il faut que nous partagions un peu le même objectif, le même objectif intellectuel, je dirais, c'est de démontrer l'existence d'un paradigme caraïbéen. C'est-à-dire que de notre point de vue, dans la Caraïbe, se concentrent les logiques, des logiques très particulières qui sont significatives des logiques profondes de la modernité occidentale. Et ce paradigme caraïbéen, on voudrait le mettre en valeur, le construire encore mieux et mettre à jour ces logiques qui sont quasi souterraines et pourtant qui sont structurent la modernité occidentale telle qu'elle a pu se développer. Et je résumerai avec la formule qu'utilise Achille Bembé, cette modernité qui a été longtemps significative ou de progrès, d'universalisme, etc., et ce qu'il appelle les démocraties esclavagistes, donc qui sont l'alliance improbable entre cet idéal démocratique et la barbarie qu'a été l'esclavage. Donc voilà, en gros, c'est autour de ça qu'on travaille. Alors aujourd'hui, on consacre cette journée, c'est la première depuis notre cycle, alors qu'on est dans la frénésie mémorielle depuis des années, c'est la première journée de notre cycle consacrée à la mémoire. Et on est le 22 mai, vous le savez, alors c'est tout à fait fortuit, on n'a pas fait exprès de faire une journée mémoire le 22 mai. Et le 22 mai, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une date qui correspond à la révolte des esclaves à la Martinique en 1848 et qui ont obtenu avec cette révolte que l'esclavage soit aboli sur place par le gouverneur alors que le décret avait été voté le 27 avril mais n'avait pas eu le temps d'arriver dans l'île. Donc rien que cette date, elle condense, je trouve, ce que l'on disait par rapport à ce paradigme caraïbéen, parce qu'on est là dans ce balancement entre est-ce une abolition conquise ou est-ce une abolition qui a été attribuée généreusement. Et on est en plein dans cette problématique, puisque l'abolition va devenir, par excellence, ce qui sauve la démocratie, et notamment la démocratie et la République française, qui s'abrite énormément derrière cette abolition. C'est absolument significatif et constitutif de ce paradigme avec ce balancement entre des significations qui sont paradoxales. Donc, tant mieux si on est aujourd'hui le 22 mai pour rappeler cette date et ce que cette date renferme comme symbole. Alors, l'angle que l'on vous a proposé aujourd'hui pour aborder la mémoire dans les sociétés post-esclavagistes, c'est d'abord, la mémoire, elle est entendue ici comme une catégorie générale qui englobe des processus mémoriels qui vont du souvenir à la fabrique commémorative, de l'incorporation à la mise en récit, c'est-à-dire du non-verbal au verbalisé. L'angle donc qu'on vous a proposé, c'est celui de l'accumulation temporelle, de la superposition de strates. Alors, on a repris dans le petit condensé qu'on vous a proposé, la courte présentation, la réflexion de Reinhard Koselleck, qui sonne pour moi comme une évidence. Koselleck nous dit « les conditions et les déterminations qui interviennent dans chaque événement présent sont issues de strates plus ou moins profondes de ce qu'on appelle le passé ». Donc, concevoir les sociétés, les individus comme l'accumulation d'expériences et qui forment donc strates en chacun de nous et en chacun des groupes. Alors, on ne reviendra pas, je pense, au cours de cette journée, sur la problématique de mémoire qui a structuré l'anthropologie de la Caraïbe pendant de longues années. Je crois qu'on n'en est pas encore sorti, mais récemment encore, au moins dans les années, première décennie de ce siècle et jusqu'aux années 2010-2015, 2015, on avait encore cette problématique qui structurait l'anthropologie de la Caraïbe, c'est-à-dire savoir si oui ou non on était placé face à la permanence d'héritage africain aux Amériques et en gros d'évaluer le poids dévastateur ou non de l'esclavage dans les productions culturelles parvenues à s'établir. La mémoire dans les sociétés esclavagistes et post-esclavagistes, c'était rechercher, y a-t-il ou non de l'Afrique aux Amériques ? Et le laboratoire dans lequel j'étais, c'était, est-ce que c'est ou pas des vrais Africains aux Amériques, quoi. Grosso modo, y avait... Mais c'est drôle, c'est quelque chose qui est encore assez marqué, de rechercher absolument la trace africaine et savoir si oui ou non un rituel donc, s'apparente à ce qu'il y avait en Afrique, etc. Ce qui est quand même extrêmement... limitatif de nos démarches et qui, et ce n'est pas un hasard, là encore on est dans la construction de notre paradigme, qui met à côté l'esclavage lui-même, parce que ce n'est pas savoir quelle mémorisation de l'esclavage il y a eu, quel dispositif de mise en récit ou d'incorporation de cet esclavage, mais un peu décentrer le regard de l'esclavage sur la fameuse problématique de la continuité ou non de l'Afrique. Et c'est tous les travaux sur la créolisation, sur le modèle de la rencontre de Richard Price, sur Herskovitz, toute cette anthropologie hein, qui est Bastide, etc. Tout ce background qui se base sur cette question. Alors, donc, ça ne sera pas ça. Hein, objectif, notre perspective, elle va plutôt partir du fait qu'il y a, oui, ce socle constitué et constitutif qu'est l'esclavage, et partir du tragique de cette expérience humaine que cet esclavage installe au cœur des formations sociales. Alors, on voudrait explorer comment, à partir de cette fondation qui est de l'ordre d'une violence extrême, des strates successives ont pu former des agencements nouveaux ou bien se fondre dans cette matrice originelle pour reconduire le souvenir douloureux, ce souvenir être à nouveau présent comme un prolongement d'une condition historique ancienne. Dans le propos toujours d'introduction, qui était très court hein, à cette journée, on a proposé de travailler à partir de la notion d'événement, tel que l'ont défini Facien et Bensa. C'est-à-dire, pour être plus précis que dans notre présentation, comme un choc qui, dans un passé plus ou moins lointain, je les cite hein, là, un choc qui, dans un passé plus ou moins lointain, posa les conditions à partir desquelles l'univers local devait se réorganiser. Et pour Facien et Bensa, l'événement, c'est une ligne de partage, un basculement ou encore une rupture d'intelligibilité. Ce qui est un peu, en définitive, différent de ce que nous dit Kozelek, puisque les strates vont conditionner la formulation de souvenirs, y compris des souvenirs nouveaux, et déterminer la réception de l'événement. Alors, c'est un peu à voir comment ces propositions sont compatibles. Donc, l'événement, toujours pour Facien et Bensa, il oblige à d'autres ordonnancements, à d'autres régimes de commentaires. Et moi, j'aimerais bien, si on peut, si on en a les moyens, parce que c'est quand même une réflexion assez ample, se poser la question de savoir si on peut, dans les sociétés post-esclavagistes, parler d'événements qui auraient été des points de bascule, à partir desquels d'autres strates auraient, en définitive, pu submerger cette strate antérieure de l'esclavage. Ou bien, est-ce que ces strates, c'est ce que je pense, je dois le dire, sont des successions d'emboîtements où se retrouve cette trame narrative continuée, où le souvenir ancien, le souvenir premier, le souvenir primordial, celui de l'esclavage, est encore agissant sous des expressions diverses qui attestent de la présence du mémoriel, donc sous toutes ces formes que je vous disais. Et pourquoi cet esclavage sera encore agissant, bon, on n'aura certainement pas le temps d'aborder tout ça, mais en raison aussi de processus qui réactualisent ces schèmes fondateurs. Sans la réactualisation, il n'y aurait peut-être pas ce socle reconduit, et il y aurait peut-être l'événement, comme l'entendent Bensa et Fassin comme point de basculement. Il y aurait la possibilité d'un basculement dans autre chose, mais c'est compromis certainement en raison de la force et de la réactualisation, surtout des chaînes liées à l'esclavage. Alors, il y a juste un petit inconvénient dans cette salle, c'est qu'il y a du passage. Ça, on ne peut rien y faire. Donc, voilà, je m'excuse auprès des intervenants quand ils pourront peut-être être gênés. Alors, je ne voudrais pas empiéter sur nos discussions que vont animer Mathieu Claverolas et Jean-Bernard Ouédraogo, que je vous présenterai plus tard. Je voudrais juste suggérer des petites pistes à partir des interventions, de ce que je connais de vos travaux et qui ont tout en commun, me semble-t-il, d'interroger ces diverses alternatives qui se présentent pour concevoir cette mémoire en strates. Alors, il y a le bagne guyanais dont va nous parler Charles, qui est comme une sorte de surimposition, de dédoublement ou de redoublement, me semble-t-il, d'une institution de fabrique de destin tragique. Et comment s'articulent ces strates au sein d'une expérience commune que pourraient venir dire les lieux de mémoire dont va nous parler Charles, donc ces lieux de mémoire institués autour du bagne. Et je me demandais si esclavage et bagne se répondaient. Est-ce qu'ils étaient des strates un peu étanches et est-ce qu'on va pouvoir répondre à cette question à travers le mémoriel avec les mouvements sociaux de 2009 dont nous parlera Céline, que je ne vois pas mais j'espère qu'elle va arriver, avec les réseaux constitués pour les demandes de réparation du crime de l'esclavage dont va nous parler Niki, eh bien, c'est la question de la répétition, de l'écho, de la continuité ou du prolongement qui semble se profiler comme une trame de cohérence entre justement ces strates de l'histoire, en fonction bien sûr des temps politiques qui vont autoriser ou non d'entrer dans le disciple de la contestation. Et puis le massacre de Casal en Haïti dont va nous parler Maude et dont va nous parler aussi Nicolas qui nous a rejoint, eh bien, si c'est l'événement choc, s'il en est, ce serait celui-là. Il pose aussi la question de la répétition, ici celle de la violence extrême. L'événement, là, est-ce qu'il fait rupture ou procède-t-il d'agencements nouveaux ou plutôt ramène-t-il la trame dans un présent dévasté, cette trame qu'il ramène le temps d'un massacre. Donc, avec vos interventions, du moins à partir de ces petits éléments que j'ai pu capter, très elliptiques, on est en présence, me semble-t-il, de situations qui nous permettent d'aborder les mémoires en strates selon une sorte de continuum allant de la juxtaposition, superposition, dans le cas du bagne, par exemple, si on le considérait comme un à côté de la plantation, jusqu'à la résurgence des torrentiens non réglés, avec les demandes de réparation, ou encore le maintien des clivages ancestraux au sein du mouvement de 2009, ou le retentissement des modalités de la violence au travers de Casal. Alors, c'est en ayant à l'esprit que chaque moment se constitue déjà en souvenir, à peine a-t-on parlé, à peine a-t-on agi, que c'est déjà un souvenir. Chaque moment donc, se constitue en souvenir, convoque forcément le mémoriel, que ces pistes de réflexion vous sont livrées parce qu'il va de soi que c'est la mémoire convoquée ou élaborée autour de ces situations, de ces événements qui nous intéressent aujourd'hui et non pas les événements et les situations en tant que telles. Et pour terminer cette introduction, je voudrais juste ajouter quelques commentaires au sujet très bref, de ce souvenir du tragique qui a servi d'intitulé à cette rencontre. Parce que cette idée, cette notion, elle appelle l'idée d'une histoire, ou plutôt d'une condition historique qui côtoie l'inéluctable de la mort et la fatalité de destins héroïques rompus, comme les a étudiés Liliane Pestre de Almeida à partir du théâtre d'Aimé Césaire. Et c'est avec cette analyse du théâtre césarien que je voudrais ouvrir le plus largement possible cette rencontre. Car dans le théâtre de Césaire, le tragique chemine avec le comique et le parodique sur une ligne qui finit par s'estomper. Le comique dénonce l'absurdité et la cruauté du monde dans la pitrerie, se moque de l'arrogance barbare des puissants. Et parler du tragique dans cette perspective césarienne C'est donc s'efforcer de ne pas oublier que les souvenirs peuvent aussi composer avec le rire et le rire critique. Ce n'est certes pas aujourd'hui l'objet de notre rencontre, mais c'est plutôt une précaution que je voudrais prendre pour ne pas procéder à des enfermements dans la douleur qui redoubleraient cette douleur. Et c'est encore amener le regard sur des résistances au tragique en appelant aussi à prendre au sérieux le rire, comme une expression que j'emprunte à Gwenaëlle Mincent, prendre le rire au sérieux. Et bref, c'est donner déjà une suite à notre rencontre, je l'espère, et vous inviter de nouveau à explorer l'autre face du tragique dans les sociétés post-esclavagistes, c'est-à-dire cette face que serait le rire, trop absent des recherches sur les mondes post-esclavagistes, alors que ce rire dévoile sans doute les formes les plus subtiles de prise en charge critique des destins tragiques. Voilà, c'est à vous maintenant.